quel horizon pour notre avenir.
J'ai dit émission en devenir.
C'était n'importe quoi, on a tout commencé en même temps.
Dans quelques années, vous allez devoir choisir un métier. Lequel feras-tu ?
Plus tard, je voudrais être maçon.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que je vais faire.
DRH.
Mécanicien moto.
J'aimerais être mécanicien.
Plus tard, j'aimerais être coach sportif.
Moi, j'aimerais devenir photographe.
Orthophoniste. Ophtalmologiste.
Pompier.
Scénariste.
Médecin.
Marchand.
Gendarme.
Infirmier.
Policier.
Danseur.
Musicien. Jardinier.
Comédien.
Maçon.
Acteur.
Maîtresse.
Écolière. Non, c'est pas métier.
Bonjour, nous sommes sur Radio Voilà Musicien 93.7 pour l'émission Quel horizon pour notre avenir, animée par les 3e du collège Jean de la Fontaine. Au micro, Calista. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Adélie.
Bonjour.
Alexandre.
Bonjour.
Et Camille.
Bonjour.
Et nous accueillons M. Romuald Delacour et M. Élie Pouillaud. M. Delacour, bonjour.
Bonjour.
M. Pouillaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue. Pouvez-vous en quelques mots nous décrire votre métier ?
Je voudrais remercier la radio Valois-Mulsien de cette invitation. C'est l'occasion d'échanger avec vous sur ce métier. Quelques mots, notre métier, il y a certainement 1000 façons de le définir. J'aurais envie d'en choisir une qui serait de dire c'est un métier qui consiste à soulager la souffrance psychique, la souffrance affective, mentale, la souffrance des liens qu'on peut avoir avec les autres.
Je partage les remerciements de mon collègue Romuald et je trouve effectivement l'initiative tout à fait intéressante. Décrire le métier de psychologue, ça demande d'abord de décrire ce que c'est qu'un psychologue. Et effectivement, quand on dit qu'on est psychologue, on n'a pas dit grand-chose. Hein. C'est comme quand on dit qu'on est ingénieur. Ingénieur en informatique, ingénieur en ponts et chaussées. Et quand on est psychologue, il y a différentes manières de pratiquer la psychologie. Il y a la psychologie clinique, la psychologie comportementale, la psychologie du travail, la psychologie du développement. Et ce sont effectivement des métiers qui sont tout à fait différents dans leur manière d'appréhender ce que vient de décrire Romuald, c'est-à-dire la question de la souffrance psychique et de la difficulté à vivre avec soi-même et avec les autres. Ce qui caractérise malgré tout, de manière transversale, l'ensemble des différentes perspectives de la psychologie, c'est d'essayer effectivement de prendre en charge les difficultés que peuvent avoir les uns et les autres à vivre personnellement, à vivre avec les autres, à vivre socialement et à vivre avec leur histoire et leur passé.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce métier ?
Pour ma part, je suis arrivé assez tard, 30 ans passés, quand j'ai commencé ces études-là, donc après déjà un parcours important, dont le fil conducteur était sans doute l'intérêt pour la vie intérieure, disons. Quand il s'est agi de commencer ses études, il me semblait que c'était celle qui répondait le mieux à cet intérêt dans l'exploration de la vie intérieure, des mécanismes intérieurs. Et puis bien sûr, c'était une façon aussi, comme bien souvent je crois quand on entame ses études, de partir à la recherche d'un certain nombre de réponses à des questions qui me préoccupaient.
Je pense que je n'ai pas commencé ces études directement pour devenir psychologue. Je me suis engagé dans un cursus de psychologie parce que j'étais intéressé par le fait de prendre plusieurs années d'études pour réfléchir à ces questions psychologiques, psychanalytiques, parfois même philosophiques, qui sont qu'est-ce que c'est que de faire le parcours de son existence, qu'est-ce que c'est que de vivre et quelles sont les conditions ou les entraves à être apaisé, serein sur le plan psychique. Et de fil en aiguille, ce que j'ai trouvé dans ces études m'a donné envie de faire ce métier et de consacrer en fait ma vie à travailler avec les gens, avec les êtres humains, dans un bureau ou dans d'autres dispositifs, mais où je rencontre des personnes, tout type de personnes, des enfants, des adolescents, des adultes, avec tout type de souffrances, des souffrances légères, des souffrances très fortes, mais avec la caractéristique qu'on est des êtres humains, et qu'on a tous été des enfants, et qu'on a tous été pris dans le parcours de l'existence, et que c'est difficile, c'est forcément difficile pour tout le monde. Ça m'a intéressé de consacrer ma vie à cette réflexion-là. Comment essayer d'aider, de soutenir les gens dans leur parcours d'existence. C'est une question qui me parlait, moi, intimement.
Et depuis combien de temps vous exercez ce métier ?
J'exerce le métier de psychologue depuis 14-15 ans, j'exerce le métier d'être humain et d'enfant depuis presque 40. Quoi.
C'est une jolie réponse. Le métier d'être humain. C'est à peu près le même ordre de grandeur. Ça fait une bonne quinzaine d'années que j'exerce comme psychologue.
Quelles études vous avez fait pour exercer ce métier ?
Pour exercer comme psychologue, il faut être passé par l'université dans une formation qui dure 5 ans. C'est ce qu'on appelle maintenant un master de psychologie avec des variétés. En ce qui me concerne, master de psychologie clinique et psychopathologie. Ça donne le droit d'exercer comme psychologue, mais la formation se fait tout le temps. On sait somme toute peu de choses quand on sort de l'université, il reste encore beaucoup à apprendre et c'est beaucoup le contact avec les patients, avec les personnes qui viennent nous voir, qui continuent à nous former, à nous enseigner.
Je peux répondre un peu sous deux angles parce que bon, effectivement, il se trouve que Romuald Delacour et moi-même, nous sommes psychologues et directeurs au CMPP de Crépy, mais à côté de ça, moi j'enseigne également la psychologie à l'université Paris 13, parce que dit Romuald est tout à fait juste, c'est-à-dire pour avoir le titre de psychologue, il faut passer par un cursus en 5 ans, classique, actuel, le LMD, licence, maîtrise, pas nécessairement doctorat, hein, le master 2 suffit quoi. Mais c'est vrai que quand on sort de l'université avec un master 2, on a le titre de psychologue. Il n'est pas dit, de psychologue clinicien, comportementaliste, bon, il n'est pas dit qu'on en ait nécessairement encore les compétences. Le travail de psychologue, c'est vraiment un processus continu, bon, à la fois de formation. D'ailleurs, dans beaucoup d'établissements, c'est reconnu. C'est-à-dire les psychologues ont un temps chaque semaine pour se former, pour continuer à suivre des conférences, pour continuer à lire des ouvrages, des articles, pour se tenir à la pointe des connaissances sur le développement psychique. Mais c'est aussi un travail qui demande une formation personnelle, qui est très souvent le processus analytique, c'est-à-dire faire soi-même sa propre analyse, puisqu'on peut considérer que la moindre des choses pour recevoir des personnes qui sont dans une souffrance psychique, quelle qu'elle soit, est d'être à peu près au clair avec soi-même, sa propre histoire et sa propre souffrance psychique. Être un psychologue avec des assises à peu près sérieuses, ça veut dire savoir, grosso modo quand même, on ne le sait jamais totalement, mais où est-ce qu'on en est de sa propre vie psychique, avec son histoire, avec son passé, avec les différentes personnes qui occupent notre vie psychique, c'est-à-dire notre mère en nous, notre père en nous, les gens qui nous ont façonnés dans notre histoire, où est-ce qu'on en est avec ça? Et ça, c'est un travail qui dépasse de loin l'apprentissage universitaire et les examens universitaires, c'est-à-dire c'est un travail analytique, de psychothérapie analytique, qui peut prendre 5 ans, 10 ans.
Pourquoi vous venez me voir?
J'ai pas d'amis. Je me sens pas bien.
Et est-ce que vous essayez d'aller vers les gens, de leur parler?
Oui, mais à chaque fois, ils me rejettent. Ils me jettent, ils me donnent des coups de pied.
Vous les avez pas insultés?
Non, et puis ils me crachent dessus aussi.
Et c'est quoi un CMPP?
Un CMPP, c'est un centre médico-psychopédagogique. C'est un lieu, donc à Crépy-en-Valois, nous sommes un CMP-CMPP. Centre médico-psychologique, centre médico-psychopédagogique, les deux. C'est un lieu où on reçoit tout type de demandes par rapport à une souffrance quelconque sur le plan psychique. Nous recevons des patients de 2 ans à 18 ans, sur demande alors soit des parents, la plupart du temps, soit des personnes qui se substituent à l'autorité parentale. Ça peut arriver, ça peut être des grands-parents, ça peut être seul à l'enfance. Et nous recevons des demandes pour X raisons, c'est-à-dire que ça peut aller de... Écoutez, mon enfant a du mal en ce moment sur le plan scolaire, il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à apprendre. Ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être de l'agressivité, ça peut être des troubles beaucoup plus compliqués. Des symptômes soit personnels, une souffrance personnelle de l'enfant, soit des symptômes qui viennent marquer une souffrance familiale, une difficulté à vivre ensemble en ce moment. Et la difficulté à vivre ensemble, elle peut prendre de multiples formes, ne plus parler, s'éloigner, se séparer, ne pas arriver à s'aimer, se faire la guerre, se battre, s'insulter, ne pas se comprendre. Donc nous recevons tout type de demandes. Ces demandes sont reçues soit par des psychologues, soit par un psychiatre, à la suite de quelques rendez-vous avec la famille, avec les parents de l'enfant, sur ce qui pose problème. Nous allons ensemble décider de la suite à donner à ce qu'on peut appeler les soins. Et donc là, l'ensemble du CMPP est à disposition des personnes que nous recevons, au service de la population qui a une question à régler sur le plan psychique. Nous pouvons proposer un travail avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des orthophonistes, avec des psychomotriciens, un travail sur le plan scolaire, des groupes thérapeutiques et beaucoup d'autres choses.
Est-ce qu'à chaque fois vous arrivez à trouver une solution à leurs problèmes ?
Moi je ne poserai pas la question comme ça. Bien entendu, il faut que les choses aillent mieux. Si les gens viennent, c'est parce qu'ils souffrent, il faut qu'ils soient mieux dans leur propre rapport à l'existence. Très souvent, l'enjeu n'est pas nécessairement de trouver la solution, parce qu'il y a des situations aussi, il n'y a pas de solution parfois. Je pense à des situations de handicap, par exemple. L'enjeu, c'est parfois pas tellement de trouver une solution que de poser la question autrement et d'avoir un autre rapport à la question. Quand son passé fait souffrir, quand on souffre de ce qu'on a vécu, quelque chose, par exemple, de dramatique, un enfant qui a été maltraité ou qui a été violé, on ne va pas changer le passé de la personne. On ne va pas effacer l'événement. Mais on peut changer le rapport qu'entretient la personne avec son passé.
Oui, j'aurais envie de compléter peut-être cette réponse en disant qu'on ne trouve pas nécessairement de solution, mais on essaye de relancer quelque chose d'une mobilité intérieure chez un individu ou entre des individus d'une même famille, par exemple. Moi, j'aime bien utiliser le terme de jeu, retrouver une capacité de jeu. Retrouver la capacité de jouer ensemble, dans toute relation, il devrait y avoir, il serait souhaitable qu'il y ait une dimension de jeu, toute relation est une forme de jeu, pourrait l'être en tout cas, et jeu aussi dans le sens mécanique, c'est-à-dire le jeu entre deux pièces mécaniques, c'est ce qui fait que ces deux pièces peuvent s'articuler ensemble, qu'elles peuvent générer un mouvement, qu'elles ne sont pas bloquées ensemble. Et souvent la souffrance se vit sur ce mode du blocage. Je me sens coincé dans ma famille, je me sens coincé dans mes problèmes, dans mes pensées noires, etc. Le travail consiste, je crois souvent, à introduire suffisamment de jeu pour que ça redevienne mobile et que la personne regagne un degré de liberté.
Cette question, elle est importante. Qu'est-ce que c'est que trouver une solution sur le plan psychique, qu'à une souffrance psychique qui s'est constituée durant des mois, des années? Je le disais, le simple fait de poser les choses autrement fait solution. Mais ce qu'il ne faudrait surtout pas croire, et je pense que ça c'est le mode de pensée duquel il faut se défaire, c'est qu'à tout problème, il y a une solution immédiate, comme, une voiture serait cassée, et puis il y aurait un guide, un remède pour tout de suite la réparer. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de protocole à appliquer. Il y a à écouter la personne dans ce qu'elle a à dire, d'elle-même, de son histoire, dans ce qu'elle ne veut pas forcément savoir même de son histoire, ce qu'elle a oublié, et redéplier, rebattre les cartes avec elle et repenser comment tout ça s'organise. Et parfois, ça fait solution. Il n'est pas question de donner un guide, quoi, un manuel d'emploi.
To be, to be or not to be, that is the question.
To be, that is the question.
Or not to be.
Faut-il des qualités spécifiques pour exercer ce métier ?
J'imagine qu'il faut un intérêt sans doute pour la vie des autres. Quelqu'un qui vient nous voir, alors que ce soit au CMPP ou que ce soit en libéral, puisqu'il se trouve que j'ai aussi un cabinet libéral, nous ouvre toujours la porte de son paysage intérieur et on part un peu en voyage avec la personne qui vient et qui dit « voilà ce qui ne va pas, comment pourriez-vous m'aider, etc. » Donc il faut certainement un intérêt pour ça, partir, explorer le monde intérieur, le paysage intérieur de la personne qui vient nous voir, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte. Je crois aussi que dans le métier tel qu'on l'exerce au CMPP, il faut aussi une disposition à travailler avec les autres. Une capacité à accepter de ne pas travailler seul, de ne pas résoudre seul les problèmes, de ne pas penser tout seul, et de ne pas agir tout seul.
La capacité à travailler collectivement autour de situations ou de problématiques qui parfois peuvent être complexes est tout à fait essentielle. Ensuite, est-ce qu'il faut des compétences particulières ? Je ne sais pas. Il faut en tout cas être intéressé par la question de la vie humaine. Et je crois tout de même reconnaître que cette question de la vie humaine, elle est nécessairement complexe. Et que quand on fait sa vie, on ne fait pas sa vie seul, même si on vit seul. On vit aussi avec les autres en soi, et avec son environnement, avec ce qu'on a rencontré dans son enfance et qui parfois peut nous porter, peut nous empêcher de dérouler l'existence qu'on voudrait avoir. Donc cette reconnaissance de la complexité, ça me paraît effectivement une condition pour exercer ce métier, mais également la capacité de l'empathie, c'est-à-dire pouvoir essayer de se mettre psychiquement dans la situation de la personne que nous rencontrons. C'est-à-dire essayer d'écouter le problème qui est proposé, non pas à partir soit de sa manière de penser à soi, mais à partir de ce qu'on en ressent de la souffrance de l'autre, ou de la difficulté de l'autre. C'est-à-dire essayer de se mettre dans le point de vue de la personne qu'on reçoit pour écouter son discours et voir un petit peu quelle écho cela rencontre en nous.
Entre nous, Ça peut paraître assez bizarre, mais ça m'a fait du bien de vider mon sac, comme si on m'avait soulagé d'un poids. Je me sens nettement plus léger. Vous êtes bon. Docteur, merci. Vous avez fait quelque chose. Mon fardeau envolé. Où il est passé, Mister?
Conseillez-vous ce métier aux jeunes?
Moi, oui, je le conseille. Je le conseille parce que je considère que c'est un métier qui se centre sur le fait de penser. Sur la question de penser et de penser ensemble. Et de ne pas laisser les gens seuls. De ne pas laisser les gens isolés dans leurs difficultés. De ne pas croire non plus qu'on est des héros, qu'on a des solutions. Mais de faire cet exercice de réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est que faire sa vie. Je le conseille aux jeunes, je le conseille aussi aux vieux, je le conseille à tout le monde. Cette question de penser sa vie avec les autres, quelque chose qui devrait rester au cœur de la société, quelque chose qui prend du temps. Et je trouve que ce n'est pas exactement le mouvement que prend la société actuelle, où on sent qu'il y a de l'immédiateté, des réponses tout de suite, en quelques instants. Et là, on est plus sur une autre temporalité, qui est une temporalité de la pensée.
On a beaucoup à puiser en soi-même des choses que l'université n'a pas données, c'est-à-dire c'est pas juste une question de connaissance. Et cette nécessité de puiser en soi-même, elle a beaucoup à voir avec la vie qu'on a pu mener. Évidemment, à 22, 23 ans, quand on sort de l'université, si on a démarré ses études tout de suite, on n'a pas la même histoire de vie, expérience de la vie qu'on peut avoir quand on exerce plus tard. Et donc ça suppose d'accepter pendant un certain temps d'avoir encore à apprendre de la vie et donc d'être dans une situation où peut-être le savoir qu'on a reçu n'apporte peut-être pas l'appui suffisant pour exercer le métier.
Avez-vous peur ou êtes-vous parfois angoissé au début d'une journée?
Non. Est-ce que vous pensez à la peur de ce qui va se présenter dans la journée, la peur de ce à quoi on aura affaire?
Oui.
C'est pas mon cas. Non.
C'est complexe. Hein. Je crois que je peux dire que tous les matins, je suis content d'aller travailler. Même quand je suis fatigué, même si j'ai fait une petite nuit, ce métier m'intéresse. Travailler avec les gens, travailler avec les collègues, réfléchir ensemble, ce métier me passionne. Donc j'ai pas du tout peur d'aller au travail. Au contraire, j'ai envie d'aller au travail. Et ça fait 15 ans que c'est le cas. Là où je peux avoir, alors non pas de la peur, non pas de l'angoisse, mais c'est parfois une certaine appréhension, et toujours en fait d'une certaine manière. C'est au début de chaque rendez-vous, particulièrement au début de chaque nouveau rendez-vous, où une nouvelle situation se présente, où on rencontre de nouvelles personnes autour d'une nouvelle situation. Il y a toujours une forme de distance, de sérieux, de gravité, à se dire, bon, je rencontre des personnes qui font leur vie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui vont essayer de m'en préciser quelque chose sur l'espace de 30, 45 minutes, une heure maximum. Et ça demande beaucoup d'humilité, d'écoute de la situation. Donc ça, c'est pas de la peur, mais c'est toujours une forme de pratiquement de gravité lorsqu'on rencontre des nouvelles personnes. Quoi. Une forme de sérieux, quoi, on peut le dire.
Avez-vous toujours voulu exercer ce métier?
Non. J'expliquais tout à l'heure que j'étais entré assez tard dans ces études. C'est une idée qui m'est venue tard. Enfin, ça rejoint la question précédente. Est-ce qu'on conseillerait ce métier à des jeunes? Ma réponse apparaît peut-être un peu comme un frein, mais je crois qu'elle veut surtout dire que probablement à 20 ans, je n'aurais pas su exercer ce métier. C'est personnel, c'est pas le cas de tout le monde. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu envisager avant d'avoir fait un certain parcours assez erratique, hein, un peu en zigzag d'ailleurs, dans toute la période qui a précédé ces études.
Je ne peux pas dire que j'ai toujours voulu faire ce métier. Ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis adolescent, j'ai toujours voulu travailler avec les êtres humains. Je n'ai jamais voulu travailler sur un ordinateur, je n'ai jamais voulu faire de la publicité. J'ai toujours voulu travailler sur les êtres humains et autour de questions qui sont comment on fait pour vivre avec soi-même et comment on fait pour vivre avec les autres. Comment être à peu près heureux dans son existence et comment construire une société où les gens peuvent être à peu près libres et heureux avec ce qu'ils sont, tels qu'ils ont à l'être. Donc ça m'intéressait, donc j'aurais pu effectivement travailler dans les sciences humaines, autres, la sociologie, la philosophie. Et la psychologie psychanalytique m'a apporté, je crois, quelque chose de plus, qui fait que j'ai eu envie, à partir de ce métier-là, à partir de ces études-là, pardon, ben justement, voilà, d'en faire un métier. Mais c'est un cheminement.
C'est un de mes amis qui a quelques problèmes, et il va sans doute avoir besoin de voir un psy. Et j'aimerais vous poser quelques questions.
Je vous en prie, allez-y.
Quelle est la différence entre psychiatre et psychologue?
Ce sont des professions différentes et à la fois qui se rejoignent. Alors, sont surtout des cursus différents. Le psychiatre est un médecin. Le psychologue n'est pas un médecin. Le psychologue ne prescrit pas de traitements, de médicaments. Le psychiatre a fait médecine, c'est-à-dire qu'il a fait d'abord 6 années de médecine générale et ensuite il s'est spécialisé en psychiatrie. Le psychologue a fait des études de psychologie. On a eu tendance pendant longtemps à confondre un peu ces métiers-là, parce que pendant 30, 40 ans, sous l'influence de grands penseurs, de Freud, de Lacan et d'autres, beaucoup de psychologues et de psychiatres étaient psychanalystes. C'est-à-dire qu'on avait des psychologues psychanalystes et des psychiatres psychanalystes. Et donc parfois, ils pratiquaient effectivement les mêmes méthodes psychanalytiques. Donc là, il y a pu avoir une forme de confusion. Ces professions restent quand même relativement différentes et complémentaires.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis que vous l'exercez ?
Non, ça, c'est une très bonne question. Il faut du temps pour répondre à ça. Est-ce que ce métier a beaucoup évolué depuis que je l'exerce ? Bon, il y a des choses qui sont immuables. C'est-à-dire, on rencontre des personnes prises dans le parcours de leur existence. Ce qui nous relie tous, c'est qu'on a été des enfants. Vous, là, vous êtes adolescent, je suis adulte, mais on a été tous les deux des tout-petits en détresse, qui hurlaient, et puis... On a fait l'école maternelle, c'était compliqué de quitter nos parents, et puis le CP. Bon, on n'en est pas au même stade de développement, mais on a parcouru un chemin commun, et donc avec des enjeux communs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a fait pour se dépatouiller avec nos parents, comment est-ce qu'on les a idéalisés, comment on a essayé de leur plaire, comment est-ce qu'on a été déçus par eux, comment est-ce qu'on a souffert de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils n'étaient pas, et on doit faire avec dans notre existence ensuite. Et ça, on le porte avec nous, qu'on ait 15 ans, qu'on en ait 40, on le porte avec nous. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est immuable. Ce qui change, c'est peut-être l'impact de l'environnement social sur les personnes. On se fait une construction psychique à partir de sa propre existence, avec ceux qui nous ont construits, avec qui on s'est identifiés, mais nous sommes aussi en lien avec une organisation sociale qui a un effet sur nous, qui a un effet sur nos psychés. Je me rappelle que Pierre Bourdieu disait que les structures sociales deviennent des structures mentales. Alors, c'est sûrement en grande partie vrai. Quand ces structures sociales-là changent, ça a effectivement un impact sur le fonctionnement psychique des individus. Est-ce que les gens sont plus malades, plus malheureux aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans ? Ça, je ne suis pas capable de le dire. Mais l'environnement social change et ça a un effet sur la santé psychique des individus. D'où le fait qu'être psychologue, je crois que c'est aussi... s'intéresser et s'inquiéter, se soucier, avoir du souci pour ce qu'est l'organisation sociale, l'organisation de la société, l'organisation aussi du travail, l'organisation scolaire, a un impact sur les fonctionnements psychiques, sur la qualité du fonctionnement psychique des êtres humains personnels. Le collectif, le social, a un impact sur le personnel. Donc ça, oui, c'est des modifications dans ce sens-là.
Oui, je voudrais compléter ça. Alors, dans le sens de ce que tu dis, Élie, il y a effectivement des choses qui changent et c'est très frappant pour des personnes de mon âge de voir, par exemple, la place qu'occupent maintenant les réseaux sociaux, les écrans, qui changent des choses assez profondément dans la façon dont on vit ensemble et dont vous vivez ensemble. Vous êtes en relation les uns avec les autres, la façon dont ça se vit en famille. Ça, ce sont des choses tout à fait nouvelles qui n'existait pas du tout quand j'ai étudié la psychologie. C'est pas si vieux, hein, il y a 15 ans, quoi, 20 ans. Ça nous amène évidemment à nous re-questionner en permanence sur la façon dont on intègre ces évolutions des modes de vie dans nos pratiques, à travers ce que nous en disent les patients et la façon dont ils peuvent en souffrir. Par exemple, il peut y avoir des addictions aux jeux vidéo, il peut y avoir des phénomènes avec les réseaux sociaux d'exposition de sa vie intime qui peuvent avoir des conséquences parfois très compliquées. Bon, on peut avoir affaire à tout ça dans le bureau du psychologue. Et puis, je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle ce métier évolue, c'est que la recherche est continuelle. On découvre de nouvelles choses sur la façon dont fonctionne précisément l'esprit humain. Je pense là à tout l'apport des neurosciences, de la neuropsychologie dans la compréhension, par exemple, des troubles autistiques. Ce sont des données qui sont assez récemment arrivées en France et qui nous amènent aussi à re-questionner nos manières de travailler. Alors ça, c'est un domaine de la recherche, il y en a beaucoup d'autres. Toutes les recherches sur les phénomènes qu'on appelle systémiques, les théories systémiques, la façon dont un système de personnes fonctionne ensemble, ça peut être une famille, ça peut être une équipe, une classe, enfin, tout ça, ce sont des recherches très actives qui amènent de nouvelles connaissances qu'on essaye là aussi d'intégrer dans nos pratiques, parfois en inventant de nouveaux outils de travail. Un outil qu'on utilise volontiers au CMPP, c'est le psychodrame. On utilise beaucoup avec les adolescents, qui est un outil qui est bien plus récent que l'invention du métier de psychologue et a fortiori de la psychanalyse.
Pour moi, le métier de psychologue, c'est être à l'écoute des gens.
Pour moi, le métier de psychologue, c'est comprendre les gens dans leur mal-être.
Pour moi, le métier de psychologue, c'est aider les gens avec leurs souffrances.
C'est aider à réconforter les gens.
Pour moi, le métier de psychologue, ce serait de rendre possible de nouvelles capacités de vivre et d'aimer.
Pour moi, le métier de psychologue, c'est d'écouter les gens et de les aider à continuer à désirer leur vie.
Bien, le temps de cette émission est écoulé. Nous remercions M. Delacour et M. Pouillot de nous avoir consacré cette émission.
Merci à vous.
Merci à vous.
Cette émission est le fruit d'un partenariat entre Agir ABCD, le collège Jean de la Fontaine de Crépy-en-Valois et RVM.
Vous pouvez écouter toutes les interviews de l'audiothèque des compteurs de métier
sur notre antenne 93.7
ou en podcast
sur le site www.radio-valois-mulcien.fr.